Alors, nous approchons de la fin de notre forum. Et l'avant-dernier petit enseignement que j'ai à présenter s'est intitulé « Apprendre à prier l'Esprit Saint ». Nous voudrions introduire notre propos en citant Saint Jean-Paul II dans son encyclique sur le Saint-Esprit. La manière la plus simple et la plus commune dont l'Esprit Saint, le souffle de la vie divine, s'exprime et entre dans l'expérience, c'est la prière. Il est beau et salutaire de penser que partout où l'on prie dans le monde, l'Esprit Saint, souffle vital de la prière, est présent. Il est beau et salutaire de reconnaître que si la prière est répandue dans tout l'univers, hier, aujourd'hui et demain, la présence et l'action de l'Esprit Saint sont tout autant répandues. Car l'Esprit inspire la prière au cœur de l'homme dans la diversité illimitée des situations et des conditions favorables ou contraires à la vie spirituelle et religieuse. Maintes fois, sous l'action de l'Esprit Saint, la prière monte du cœur de l'homme malgré les interdictions et les persécutions et même malgré les proclamations officielles, affirmant le caractère areligieux et franchement athée de la vie publique. Je m'arrête là dans la citation. Nous nous retrouvons bien aujourd'hui dans ces déclarations de Saint Jean-Paul II, qui a connu des situations de persécution sous le régime communiste. Au cours de notre intervention, nous essaierons de répondre à plusieurs questions qui peuvent jaillir à la lecture de cette citation. Où trouvons-nous l'Esprit Saint, ce souffle vital de la prière? Comment peut-on le prier? Comment inspire-t-il notre prière? Et enfin, quelles sont les grâces qu'il veut développer en nous pour encore mieux le prier? Alors, dans la première partie, où trouvons-nous ce souffle vital de la prière? Nous, baptisés, avons tous reçu l'Esprit Saint au jour de notre baptême, puis de façon plus consciente, au jour de notre confirmation. Mais vivons-nous avec lui? Le prions-nous? En cette première partie, voyons l'action de l'Esprit Saint en nous, puis dans la liturgie, et enfin, contemplons son action. L'Esprit Saint en nous. Je commence encore par citer Saint Jean-Paul II dans son encyclique. L'Esprit Saint est le don qui vient dans le cœur de l'homme, en même temps que la prière. Dans la prière, il se manifeste avant tout et par-dessus tout, comme le don qui vient au secours de notre faiblesse. C'est l'admirable pensée développée par saint Paul dans la lettre aux Romains, lorsqu'il écrit « Nous ne savons pas que demander pour prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables. » Ainsi, non seulement l'Esprit Saint nous amène à prier, mais il nous guide de l'intérieur dans la prière, compensant notre insuffisance, remédiant à notre incapacité de prier. Il est présent dans notre prière et lui donne une dimension divine. Celui qui sonde les cœurs sait quel est le désir de l'Esprit et que son intercession pour les saints correspond aux vues de Dieu. La prière grâce à l'Esprit Saint devient l'expression toujours plus mûre de l'homme nouveau qui, par elle, participe à la vie divine. Benoît XVI complète. Nous savons combien ce que dit l'apôtre Paul est vrai. Nous ne savons pas prier comme il faut. Nous voulons prier, mais Dieu est loin. Nous n'avons pas les paroles, le langage pour parler à Dieu, ni même la pensée. Nous pouvons seulement nous ouvrir, mettre notre temps à la disposition de Dieu, attendre qu'il nous aide lui-même à entrer dans le vrai dialogue. Tout cela est précisément la prière que l'Esprit Saint non seulement comprend, mais apporte en interprète auprès de Dieu. Par l'intermédiaire de l'Esprit Saint, notre faiblesse devient précisément une véritable prière, un véritable contact avec Dieu. C'est consolant que d'entendre ces paroles, je trouve. Terminons ce premier petit point avec deux petits conseils très concrets. L'Esprit Saint est celui qui nous éclaire sur nos péchés. Pensons-nous à lui adresser une brève prière avant de faire notre examen de conscience, peut-être le soir, l'examen de conscience, ou avant d'aller nous confesser? L'Esprit Saint est aussi celui qui précède nos prières, puisqu'il prie en nous. Pourquoi ne pas l'invoquer alors pour qu'il vienne prier en nous et qu'on s'associe à sa prière? Deuxième point, l'Esprit Saint dans la liturgie. L'Esprit Saint est l'eau vive qui, dans le cœur priant, jaillit en vie éternelle, nous dit l'apôtre Jean dans son évangile au chapitre 4. C'est lui qui nous apprend à l'accueillir à la source même, le Christ. Or, il y a dans la vie chrétienne des points de source où le Christ nous attend pour nous abreuver de l'Esprit Saint. On est relevé 4 que nous disent le CEC, donc c'est la parole de Dieu, la liturgie de l'Église, les vertus théologales et l'aujourd'hui. Prier l'Esprit Saint, c'est surtout l'aimer. Aimer notre prochain. Plus on aime, plus on prie. À l'adoration eucharistique, c'est lui, le Saint-Esprit, qui nous apprend à adorer Dieu en esprit et en vérité, comme l'évoque Jésus à la Samaritaine. Cette eau qu'il veut nous donner est probablement celle de l'Esprit Saint. Regardons de plus près la liturgie sacramentelle. À travers ses paroles et ses symboles, où l'Esprit Saint nous met en communion avec le Christ. Ainsi, il est bon de parler de l'action du Saint-Esprit dans chaque acte liturgique en s'appuyant sur le CEC. Je cite, Dans la liturgie, l'Esprit Saint est le pédagogue de la foi du peuple de Dieu, l'artisan des chefs-d'œuvre de Dieu que sont les sacrements de la Nouvelle Alliance. Le désir et l'œuvre de l'Esprit Saint au cœur de l'Église est que nous vivions de la vie du Christ ressuscité. Prions ce pédagogue qu'est l'Esprit Saint de nous aider à être des éducateurs dans la foi. Ayons également confiance en son action en nous. Le CEC nous dit également que l'Esprit Saint prépare les fidèles à accueillir le Christ. Il rappelle ce mystère du Christ. Père Xavier en a parlé tout à l'heure à la fin de son homélie. Dans l'anamnèse, après la consécration, l'Assemblée fait mémoire de ce que Dieu a fait dans l'histoire du salut. Vivons mieux l'anamnèse après la consécration. Il actualise le mystère du Christ. Par l'épiclèse, avant la consécration, le célébrant implore l'Esprit Saint pour qu'il consacre le pain et le vin et le transforme en corps et en sang du Christ. Par l'épiclèse sur le peuple, le célébrant prie l'Esprit Saint de consacrer les fidèles afin qu'ils soient en vérité le peuple de Dieu. Comprenons en profondeur l'action de l'Esprit Saint dans la liturgie. Il nous met en communion avec le Christ. Que l'Esprit Saint puisse nous aider à vivifier notre participation au Saint-Sacrifice de la Messe. Troisième petite partie, contemplons l'action de l'Esprit Saint. Notre époque difficile a particulièrement besoin de la prière, nous dit encore Saint Jean-Paul II. Si au cours de l'histoire, hier comme aujourd'hui, des hommes et des femmes en grand nombre ont témoigné de l'importance de la prière en se consacrant à la louange de Dieu et à la vie d'oraison, surtout dans les monastères, avec un grand profit pour l'Église. Il y a aussi, depuis quelques années, un nombre croissant de personnes qui, dans des mouvements ou des groupes toujours plus développés, mettent la prière au premier plan et y cherchent le renouveau de la vie spirituelle. C'est là un fait significatif et réconfortant puisque cette expérience apporte une contribution réelle à la reprise de la prière parmi les fidèles, aider à mieux considérer l'Esprit Saint comme celui qui suscite dans les cœurs une profonde aspiration à la sainteté. La prière est aussi la révélation de cet abîme qu'est le cœur de l'homme, une profondeur qui vient de Dieu et que Dieu seul peut combler, précisément par l'Esprit Saint. Nous lisons dans Saint Luc, « Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit à ceux qui l'en prient ?» Essayons toutefois d'éviter deux écueils en ce qui concerne l'action de l'Esprit Saint. D'une part, ne pensons pas que le Saint-Esprit nous conduise exclusivement par des prophéties, par des visions ou des moyens spectaculaires, et de l'autre, non plus qu'il ne nous conduise jamais par ces moyens, car nous risquerions d'échapper en partie à ces lumières. Le Seigneur s'emploie à nous instruire depuis que nous avons été baptisés, sur lui-même, sur les réalités spirituelles, sur la manière de mener notre vie. Relisons la première épître aux Corinthiens au chapitre 3. Quand je suis à l'écoute de Dieu qui me parle, il s'agit rarement d'une grande révélation ou de quelque chose de neuf. Le plus souvent, c'est l'affirmation de son amour ou une exhortation à être plus attentif et moins anxieux. Il nous rappelle des vérités toutes simples, mais qui sont essentielles. Dieu peut nous donner des signes à travers notre prière, mais fréquemment on en demande trop. Au lieu de lui demander de nous enseigner, on s'appuie sur des signes qui peuvent devenir des substituts de Dieu. On peut attendre un signe pour éviter de prendre une décision. Un autre danger est de croire que tout événement est signe de ce que Dieu veut pour nous. Le Seigneur ne veut pas que nous l'écoutions pour obtenir des réponses à des questions précises, au point d'être empêchés d'entendre ce qu'il veut nous dire, lui. Faisons-lui simplement confiance et il nous donnera la réponse précise que nous attendons. Surtout, cherchons-le pour lui-même, pour son amour et par désir de faire tout ce qu'il veut que nous fassions. Dans une deuxième partie, maintenant, nous allons essayer de voir comment prier l'Esprit Saint. Donc, par une attitude du cœur et de l'âme, voir la relation entre l'Esprit Saint et la Vierge Marie, et puis quelques prières pour nous aider peut-être. Donc, en premier point, l'attitude du cœur et de l'âme. Donc, c'est le recueillement intérieur et la disponibilité à faire la volonté de Dieu. Ce qui est compliqué humainement, c'est que l'Esprit Saint n'est représenté que par des éléments de la création. Colombe, le feu, l'eau. Il n'est ni le Père, ni le Fils, mais celui qui procède du Père et du Fils. Il procède des deux et il nous conduit à eux. D'où la difficulté pour nous. Il s'efface, il se met en retrait, on ne le perçoit pas, alors qu'il est là et qu'il agit. L'Esprit Saint est très humble. Le prier demande une grande simplicité du cœur et une grande foi. Dans Rosarium Novarum, il est décrit comme le maître de notre vie intérieure. Pour le voir, il faut vivre ce recueillement intérieur dont nous parle Mère Marie Augusta. On peut aussi le lier avec ce qui fait un apôtre de l'amour par rapport à la vie intérieure et extérieure. Et cela prend alors tout son sens. Il agit en nous, il nous forme intérieurement pour que nous soyons des missionnaires zélés partageant sa soif des âmes, unie à celle de Jésus et de son Père. Quelle misère lorsque par habitude ou par ignorance nous concentrons nos désirs sur ce qui ne remplit pas. Les disciples d'Éphèse disaient à saint Paul « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. » Mais dès qu'ils ont compris que celui-ci existait, ils ont voulu le recevoir et aussitôt ils ont été remplis d'un tel feu qu'ils ont commencé à témoigner du Christ avec puissance. Bien sûr, tout le monde ne peut pas avoir un saint Paul qui pour lui imposer les mains. Mais dans le tabernacle, Jésus vivant n'est-il pas bien plus que saint Paul ? Il nous attend là avec de grands dons. Apprenons donc à discipliner nos pensées et notre manière de penser pour qu'elles soient davantage à la disposition du Seigneur. L'Esprit-Saint et la Vierge Marie. Un excellent moyen d'attirer l'Esprit-Saint en nous, c'est de prier la Vierge Marie, épouse de l'Esprit et de l'aimer. L'école de Marie est une école tout particulièrement efficace, si l'on considère que Marie l'accomplit en nous obtenant l'abondance des dons de l'Esprit-Saint, en nous offrant aussi l'exemple du pèlerinage dans la foi, dont elle est un maître incomparable. En Marie, l'Esprit-Saint réalise le dessein bienveillant du Père. C'est par l'Esprit-Saint que la Vierge conçoit et enfante le Fils. Sa virginité devient fécondité unique par la puissance de l'Esprit de la foi. En Marie, l'Esprit-Saint manifeste le Fils du Père devenu Fils de la Vierge. Elle est le buisson ardent de la théophanie définitive. Comblée de l'Esprit-Saint, elle montre le Verbe dans l'humilité de sa chair, et c'est aux pauvres et aux prémices des nations qu'elle le fait connaître. Enfin, par Marie, l'Esprit-Saint commence à mettre en communion avec le Christ les hommes, objets de l'amour bienveillant de Dieu, et les humbles sont toujours les premiers à le recevoir. La Vierge Marie nous obtient l'Esprit-Saint pour qu'il nous purifie et nous donne les sentiments du cœur du Christ. Ainsi, nous recevons peu à peu en nous ces mêmes dispositions que Jésus nous a décrites dans les Béatitudes. Cependant, c'est une chose de lui avoir ouvert notre cœur. Mais ce qui est difficile, c'est d'ouvrir davantage encore les portes de notre cœur et surtout de les garder ouvertes. C'est là où la Sainte Vierge intervient, car c'est l'éducatrice des cœurs et c'est le modèle le plus parfait. Non seulement elle est l'Immaculée Conception, mais en plus on vénère son cœur immaculé. Aucun être, aucune créature n'a aussi bien correspondu à la grâce. Il faut qu'elle soit la gardienne de nos cœurs pour les rendre immaculés. Écoutons encore un peu plus longuement saint Jean-Paul II. L'Église persévère dans la prière avec Marie. Cette union de l'Église en prière avec la Mère du Christ fait partie du mystère de l'Église depuis son origine. Nous voyons Marie présente en ce mystère comme elle est présente dans le mystère de son Fils. Le Concile le dit. La bienheureuse Vierge, enveloppée par l'Esprit-Saint, engendra le Fils dont Dieu a fait le premier-né parmi beaucoup de frères. Comment s'adresser à l'Esprit-Saint ? Quelques petites prières, plus ou moins connues, plus ou moins usuelles. Lorsque nous prions, commençons par invoquer l'Esprit-Saint. Car c'est lui qui prie en nous, puisqu'on ne sait pas prier. Dans les litanies du Saint-Esprit, on le dit, Esprit-Saint qui priez pour nous par des gémissements ineffables, ayez pitié de nous. Donc on lui demande de venir agir en nous. Viens Esprit-Saint, viens en nos cœurs, par le Veni Creator. C'est un premier pas de lui demander de venir en nous, et c'est son plus grand désir que nous lui disions oui. Et quand on lui ouvre notre cœur, on ne peut que suivre l'exhortation de Mère Marie Augusta, « Allez de l'avant dans vos découvertes de l'amour ». Ensuite, nous poursuivons notre prière comme nous le souhaitons, en lisant un extrait de la parole de Dieu ou un écrit spirituel. Nous pouvons formuler des intentions de prière, laisser jaillir une prière spontanée ou alors réciter des prières plus classiques. Même si extérieurement, rien ne semble avoir changé, Notre âme est plus disposée à s'ouvrir aux inspirations divines et à se laisser transformer. Notre vie intérieure doit déborder pour rejaillir ensuite sur toute notre vie. Pour cela, les oraisons jaculatoires, ces courtes prières que nous pouvons faire monter pas vers Dieu 10 fois, 100 fois, 1000 fois dans nos journées sont d'un grand secours. En voici quelques-unes données par des papes. À nous de les reprendre, de les assimiler et de faire parler tout simplement notre cœur. Vous pouvez le retrouver sur notre site dans l'onglet prière. Mon Dieu, faites l'unité des esprits dans la vérité et l'union des cœurs dans la charité. Saint Pie X. Esprit Saint, doux hôte de mon âme, demeurez avec moi et faites que je demeure toujours avec vous. Ou alors Esprit Saint, Esprit de vérité, venez dans nos cœurs. Donnez au peuple la clarté de votre lumière afin qu'il vous plaise dans l'unité de la foi. Léon XIII. Puis je vous laisserai découvrir les autres sur le site. Je propose encore une prière de Saint José Maria Escriva de Balaguer. Viens, Esprit Saint, éclaire mon intelligence pour que je connaisse tes commandements. Raffermis mon cœur contre les embûches de l'ennemi. Enflamme ma volonté. J'ai entendu ta voix et je ne veux pas me durcir et résister en me disant « après, demain, nunc chepi, dès maintenant, au cas où il n'y aurait pas de lendemain pour moi. » Ô esprit de vérité et de sagesse, esprit d'intelligence et de conseil, esprit de joie et de paix, je veux ce que tu veux, je veux parce que tu veux, je veux comme tu veux, je veux quand tu veux. Nous pouvons aussi prier par exemple le Veni Sancte Spiritus en pensant plus particulièrement au titre donné à l'Esprit Saint dans cette prière. Père des pauvres, dispensateur des dons, lumière de nos cœurs, consolateur, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Enfin, dans notre troisième partie, nous allons essayer de parler des grâces que l'Esprit Saint veut nous donner, les fruits de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est présent dans tous les cœurs et il nous aide à devenir meilleurs au travers des fruits qu'il forme en nous, qui sommes, comme le dit le catéchisme, comme des perfections, des prémices de la gloire éternelle. Ils sont au nombre de 9. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi, que nous allons à présent brièvement détailler. Dans l'ordre, l'amour. L'amour est le fruit de l'Esprit Saint qui est lui-même l'amour. L'amour selon Dieu engendre la joie et la paix du cœur. Jésus, en donnant à ses disciples les 8 béatitudes, a lui aussi, comme Saint Paul, donné les 8 qualités de l'amour. C'est un amour gratuit. Un amour inconditionnel, c'est-à-dire sans condition. Un amour généreux, on donne sans compter. C'est le renoncement à l'égoïsme. Cet amour recherche ce qui est le meilleur pour l'autre. L'amour n'est pas un don de Dieu, c'est un fruit. On grandit peu à peu dans l'amour, au fur et à mesure du développement de notre vie spirituelle. Et c'est à nous de mettre les conditions pour qu'il grandisse. La joie. C'est une joie plus profonde que la gaieté ou le sentiment de bonheur éprouvé lors d'un événement heureux. La joie donnée par Dieu ne dépend pas des circonstances extérieures de notre vie. Elle s'ancre au contraire dans la certitude d'être aimé de Dieu, quoi qu'il arrive. La paix. Ce n'est pas l'absence de conflit. C'est une tranquillité de notre être intérieur, une tranquillité de l'âme. On peut prendre une comparaison. Même si la mer est agitée, si je plonge sous l'eau, il faut peut-être aller un peu profond, mais je trouve le calme. Même si nous traversons des choses difficiles, nous savons que nous sommes dans la main de Dieu. La patience. La patience est la capacité que nous avons de pouvoir traverser les moments plus difficiles sans nous énerver, sans mécontentement, sans ressentiment ni murmure. La capacité de tolérer les imperfections, les contrariétés et les contretemps. Et aussi la capacité d'attendre, parfois très longtemps, ce que l'on désire. La bonté est la capacité de voir à la manière de Dieu, c'est-à-dire avec amour, être compatissant. Elle rime avec la générosité. La bonté n'est pas un signe de faiblesse, bien au contraire, c'est un signe de force. Nous croyons en la force de l'amour qui peut transformer nos vies. La bienveillance, cela veut dire on veille au bien de l'autre. C'est ne vouloir faire aucun mal à qui que ce soit. Elle rime avec l'indulgence, la non-condamnation et l'empathie. La compréhension de la souffrance et de l'ignorance qui sous-tendent le mal et la volonté de leur guérison. Elle rime avec la capacité à pardonner généreusement. La fidélité, la racine de la confiance, la foi. Dieu est fidèle à son alliance avec les hommes. Nous aussi, nous grandissons dans la confiance et dans la fidélité à Dieu et aux autres. Cela passe notamment par le respect de la parole donnée et des engagements qui ont été pris. On peut compter sur nous. La douceur. Les personnes douces sont calmes, donnent une impression reposante. Elles sont facilement abordables. On sent auprès d'elles que l'on est accueilli. Jésus nous dit « Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. » Et le dernier, la maîtrise de soi, ou encore la tempérance. Ce n'est pas une maîtrise de soi à la force du poignet, mais une vertu intérieure qui se développe et qui fait que l'on est maître de soi, chaste, sobre et modéré. J'en arrive à ma conclusion, que je veux rattacher à la bienheureuse Conchita, donc mère de famille, mexicaine, fondatrice des missionnaires de l'Esprit-Saint, qui a reçu des révélations de notre Seigneur. Et voici ce qu'elle dit. Sur la terre, la mission de l'Esprit-Saint consiste à acheminer les âmes vers ce foyer de l'amour qui est Dieu. La foi s'éteint par absence du Saint-Esprit. En chaque cœur et dans l'Église entière, on ne rend pas à l'Esprit-Saint le culte qui lui est dû. La plupart des maux que l'on déplore dans l'Église et dans le champ des âmes vient de ce que l'on n'accorde pas à l'Esprit-Saint la primauté que moi, Jésus, j'ai donnée à cette troisième personne de la Trinité qui a pris une part si active à l'incarnation du Verbe et à la fondation de l'Église. On l'aime avec tiédeur, on l'invoque sans ferveur, et en beaucoup de cœurs, même parmi les miens, on ne se souvient même pas de lui. Tout cela afflige profondément mon cœur. Ayons le désir de répondre avec beaucoup d'ardeur et de flamme à l'invitation de Jésus, parce que l'Esprit-Saint est présent au cœur de notre vie et de ce qui fait notre vie. Sachons donc mieux l'écouter et nous mettre plus à son école, par des prières, mais plus encore par une attitude intérieure attentive à son action en nous et disponible à le laisser agir. Nous ne pouvons imaginer le bien que l'Esprit-Saint ferait et aimerait faire si nous acceptions de le laisser agir. Plus on le connaît, plus on l'aime, plus on le prie.